Alors je me présente, je m'appelle Olivier Baud, je suis ce qu'on appelle ingénieur-chercheur chez EDF, à la R&D d'EDF. Vous allez le voir par la suite, ingénieur-chercheur, ça porte bien son nom, puisqu'on est vraiment entre le monde des applications, développer des innovations pour le monde réel, entre guillemets, le côté ingénieur, et la partie recherche, où on se tourne plus vers des outils que vous avez pu appréhender pendant le cours de théorie des jeux. Et voilà, donc je vais essayer de vous présenter ça au travers d'un exemple. Donc c'est un type d'étude parmi un certain nombre qu'on fait à la R&D d'EDF, qui s'appelle le mécanisme de flexibilité de consommation. Donc j'imagine que pour l'instant c'est pas forcément très clair pour vous. Je vais essayer aussi au passage de clarifier ce que veulent dire ces nouveaux sujets pour nous dans le monde électrique. Alors vous avez peut-être vu, ce sera filmé. Donc n'hésitez pas quand vous posez les questions, que vous pouvez poser quand vous voulez, hein, à les poser suffisamment fort pour que ça ait une chance d'être capté à la vidéo. Voilà, mais n'hésitez pas à m'interrompre, notamment parce que vous le verrez, une grande partie des slides est en anglais. C'est pour vous donner les pointeurs actuels sur le sujet et la plupart des documents sont en anglais. Donc j'ai repris un peu ces standards. Voilà, donc je vais commencer. Mon exposé sera en plusieurs temps, à commencer par une partie pour expliquer pourquoi on a des jeux dans le monde de ce qu'on appelle les systèmes électriques. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Pour vous, c'est quoi un système électrique? Vous avez une idée de ce qu'on met dedans? Ou... À part EDF, qu'est-ce qu'on... En gros, vous avez beaucoup de blocs, de plus en plus, en fait. Le système électrique, vous connaissez sûrement donc EDF. Donc, c'est un bloc maintenant production et fourniture d'électricité. Donc, production, vous avez des centrales. Vous devez produire de l'électricité que vous allez vendre à différents acteurs. La partie fourniture, là, vous êtes complètement à l'autre bout de la chaîne, proche des clients. Donc, vous vendez aux clients particuliers qu'on est tous, ou à des gros consommateurs, des usines, la SNCF, enfin des tas d'acteurs, des villes, voilà. Mais entre ces deux bouts de chaîne, il y a quand même d'autres acteurs, les acteurs des réseaux d'électricité notamment. Donc, vous avez deux niveaux des réseaux d'électricité, ce qu'on appelle les réseaux de transport. Donc, ça, c'est la haute tension. En gros, c'est les autoroutes de l'électricité, c'est ce que vous avez entre les centrales et le niveau inférieur des réseaux qu'on appelle réseau de distribution. Donc là, c'est l'arborescence, le dernier kilomètre de l'électricité, les derniers kilomètres qui vont jusqu'au consommateur. Donc ce n'est pas exactement les mêmes problématiques dans les deux parties du réseau. C'est pour ça que c'est séparé. Et en France, vous avez deux entreprises qui gèrent ces deux parties du réseau que vous connaissez peut-être, qui sont RTE, donc réseau de transport d'électricité pour la partie haute tension, et Enedis pour la partie distribution. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous dire rapidement ce qu'on appelle système électrique. Parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails de la physique de ces systèmes. Je vais plutôt vous parler mathématiques aujourd'hui. Mais je pense que c'est essentiel pour vous quand même de savoir ce que ça représente. Voilà. Alors, pourquoi on a des jeux dans le système électrique? Je vais essayer de vous y amener en regardant un petit peu quels sont les acteurs, quels seraient les joueurs de ces jeux. Et notamment en vous montrant quelques sources d'informations assez intéressantes dont vous disposez. N'importe qui peut accéder à des infos en temps réel sur ce qui se passe dans le système électrique et tous les mouvements dont on entend parler aujourd'hui, les énergies renouvelables, les marchés électriques qui sont pas encore, qui marchent pas encore à la perfection et ce genre de questions. Alors, je commence par une première photo qui vient d'un site, vous pouvez le voir en bas, qui s'appelle Ecodomix. Donc Ecodomix, c'est une initiative qui est portée par RTE, donc l'opérateur du réseau de transport, et qui consiste à mettre à disposition de tout le monde des données du système électrique. Donc vous avez la façon dont les Français consomment, la façon dont les moyens de production français produisent, et aussi certains aspects autour des marchés et des échanges entre pays. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est une petite photo. Donc vous avez, voilà, à ce niveau-là, une carte des échanges. Donc là, on est centré sur la France, mais vous pouvez le voir, et vous avez dû en entendre parler, j'imagine, il y a un certain nombre d'échanges à des points qu'on appelle les interconnexions. Donc là, vous voyez des nombres, notamment par exemple le 2143. Ça veut dire qu'on échange 2143 mégawatts. Donc, mégawatts, je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que vous savez quelle est la capacité de production de la France? C'est quoi l'ordre de grandeur? Ce qu'on serait capable de produire si toutes les centrales françaises tiraient au même moment à leur puissance maximale? 100 gigawatts. Bah, très bonne réponse. 100 gigawatts, c'est l'ordre de grandeur. Donc là, non, pas besoin du cours. Donc là, on est à 2 gigawatts en fait. Ça veut dire qu'on a échangé 2% de notre capacité de production à la frontière avec l'Allemagne. Donc c'est quand même conséquent. Et donc, vous pouvez voir quand même les échanges au travers des interconnexions sont quand même des aspects importants pour gérer l'équilibre dans chaque pays. Parce que voilà, vous le savez sûrement, la contrainte fondamentale de ces systèmes, c'est qu'à tout instant, vous devez avoir tout ce qui est produit sur la plaque européenne qui est égal à la consommation de la plaque européenne. Donc c'est assez simple à énoncer, mais en pratique, c'est hyper compliqué à gérer. Donc notamment, il y a une mutualisation des efforts et vous échangez au travers des interconnexions ce que vous n'avez pas pu assurer dans votre pays. Voilà, donc c'est un premier aspect pour vous montrer, il y a des échanges entre des joueurs qui seraient ici les pays. Et quand par exemple, vous avez l'Allemagne qui décide de sortir du nucléaire, clairement, ça remet en cause la structure de ces échanges. Donc c'est un choix qu'on peut juger comme stratégique, stratégique au sens politique, mais aussi stratégique au sens des jeux, parce que clairement, ça remet en cause les interactions entre les différents pays qui partagent la plaque européenne électrique. Donc c'est un premier aspect. Et alors si un jour vous êtes curieux et voulez vous lancer dans ce genre de questions, n'hésitez pas vraiment à aller jeter un œil sur ce site. C'est vraiment une mine d'or. Il n'y en a pas tant que ça en France, il y en a beaucoup aux États-Unis. Mais vous pourrez trouver un certain nombre d'informations qui sont mises à jour vraiment en temps réel, de l'ordre de toutes les 10 minutes, sur ce site. Voilà. Donc premier jeu potentiel entre des pays, des opérateurs dans les pays. Alors, deuxième site que j'ai été consulté pour vous donner une petite idée des acteurs qu'on rencontre dans ce système, c'est ApexPot. Donc ApexPot, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un marché d'électricité, le principal marché d'électricité européen. Donc c'est une plaque d'échange d'électricité. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, depuis l'ouverture de ces marchés à un certain nombre d'acteurs, on retrouve énormément de monde sur ces marchés. Donc on n'a pas affaire seulement à des acteurs historiques du système électrique, mais vous allez voir, il y a vraiment des profils très très divers, parce qu'on n'est plus obligé de posséder des centrales pour aller sur ces plateformes. On peut être simplement un trader, où vous allez le voir, il y a différents profils. Donc, à nouveau, si vous allez sur ApexPot, vous trouvez un certain nombre d'informations intéressantes qui donnent une idée de ce qui se passe actuellement dans le système électrique. Alors, il y a 274 membres. Alors, ça peut paraître, je ne sais pas si ça vous paraît d'ailleurs beaucoup ou pas. Vous allez voir qu'en fait, c'est assez énorme parce qu'on rencontre des acteurs très très divers sur cette plateforme. Alors, à commencer par des producteurs d'électricité, bon, ça vous paraît sûrement très logique. On retrouve les EDF, les équivalents dans les pays européens, donc ça, rien de surprenant. On a aussi, donc, ce que je vous décrivais rapidement, des opérateurs qui gèrent les réseaux de transport et de distribution d'électricité. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, ces acteurs-là sont aussi ce qu'on appelle responsables d'équilibre. Donc, à tout instant, vous devez vous assurer que dans les zones que vous gérez, ce qui est produit est consommé. Et s'il y a des décalages, vous pouvez aller acheter sur les marchés pour contrôler ces décalages et les rendre les plus petits possibles. Vous avez aussi des gros consommateurs. Alors là, vous pouvez voir les ArcelorMittal, des gens de la chimie, qui sont ce qu'on appelle des électro-intensifs, qui consomment beaucoup. Vous avez aussi des opérateurs, des réseaux ferrés. Donc il n'y a pas la SNCF, mais vous avez la Deutsche Bahn, vous avez Schweizbahn, un truc comme ça, qui consomment beaucoup d'électricité, peuvent aller directement sur les marchés pour acheter leur électricité sans passer par des intermédiaires. Donc clairement, les intermédiaires, parfois, ça vous fait grimper la facture. Ces gens-là, ils se sont dit, ça vaut le coup de s'intéresser à la façon dont fonctionnent les marchés. On va aller directement se sourcer sur les marchés et ça nous coûtera moins cher. Donc de plus en plus, vous voyez des gros consommateurs aller directement sur les marchés. Vous avez, ah oui, alors le dernier là, Volkswagen aussi, alors on peut y voir plusieurs raisons. Le fait que les grosses usines de production des voitures, ça consomme beaucoup, mais peut-être aussi le fait qu'en lien avec la mobilité électrique, vous avez tout un tas de débats pour jouer sur la flexibilité de la consommation des véhicules électriques et être sur les marchés, ça permet de prendre des positions dans ces sujets. Voilà, donc il y a peut-être d'autres aspects que j'ai pas entrevus. Voilà. Alors vous avez aussi les fournisseurs. Donc je reviens à l'autre bout de la chaîne. C'est ceux qui peuvent, sans forcément avoir des moyens de production, ils vont sur le marché, ils achètent des blocs d'énergie et ils revendent à tous les consommateurs. Donc ils peuvent prendre des risques sur les marchés ou plutôt prendre des positions certaines. Ça dépend de la relation qu'on a avec les consommateurs et la façon dont on gère ce métier. Donc vous voyez notamment Total Spring. Donc ça c'est Vous avez peut-être vu dans les médias, mais il y a énormément d'acteurs qui se placent sur ce métier. Vous avez Total, vous avez des gens, Cdiscount qui devient fournisseur d'électricité. Donc c'est ouvert comme monde maintenant, et différents acteurs tentent de s'y placer. Alors parfois, ça peut être... Oui. Oui. Oui, tout à fait. Donc, tout le monde entend la question. Ouais, donc, on peut, sur les marchés, être seulement faire du transit, quoi. Donc, on achète des blocs, on peut mettre juste les revendre à d'autres traders, quoi. Donc, c'est vraiment, des échanges purement virtuels financiers. Il y a des gens qui ont d'un côté un échange virtuel financier, et à l'autre bout de la chaîne, il y a de la physique, parce que je dois servir, tel gros consommateur. Je lui ai dit que demain, à telle heure, il aurait ses 10 mégawatts pour, sa chaîne de production de voitures. Et là, c'est un petit peu différent, mais tout est possible maintenant et tout est ouvert sur ces plateformes. Oui, alors il y en a beaucoup. C'est historique un petit peu parce que forcément ceux qui avaient des moyens de production se sont tournés vers ces plateformes. Donc vous avez EDF, vous avez Engie qui possède beaucoup de moyens de production. Dans d'autres pays, vous en avez énormément. Je vous ai mis aussi un cas un petit peu particulier là, la CNR. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est la Compagnie nationale du Rhône. Donc c'est un producteur, allez, c'est tout petit par rapport à EDF, mais c'est significatif autour du Rhône. C'est tous les moyens de production qui sont mis sur le Rhône. Donc vous avez plusieurs sortes, soit des barrages. Soit ce qu'on appelle le fil de l'eau, donc des petites installations qui, entre guillemets, flottent sur l'eau pour produire de l'électricité. Et donc ces gens-là possèdent des moyens de production et vont jouer sur les marchés. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à des acteurs un peu plus nouveaux, sûrement qui vous paraîtront, même si déjà avoir Total sur le marché de l'électricité, ça peut censer un peu, ça peut paraître un petit peu nouveau. Donc vous avez les traders. Ça, il y a quelques années, avant l'ouverture des marchés, des traders purs. Ça n'existait pas dans le monde électrique, quoi. Donc c'est une nouveauté, mais maintenant vous voyez donc les EDF, Edison, Enel, qui est EDF en Italie, tous ces gens-là ont des entités qui font du trading. Donc là, ça s'apparente vraiment aux outils qu'on trouve quand on fait du trading autour des matières premières, juste enfin toutes sortes de trading, quoi. C'est vraiment de la finance pure. Et vous voyez alors aussi dans la liste là, vous avez des gros pétroliers, donc ce soit British Petroleum, Shell. Etc. Alors là, on peut y voir plusieurs choses. Soit c'est sécurisé, entre guillemets, et jouer sur les matières premières dans le monde du système électrique, parce que le pétrole peut aider à produire de l'électricité. Soit c'est une façon de se couvrir. Donc il y a bien sûr des stratégies de couverture entre les différentes sources primaires d'énergie. Donc si il se passe quelque chose sur le pétrole, il y a de grandes chances qu'il se passe quelque chose de lié sur le marché de l'électricité. Donc on peut, en jouant sur différents marchés, que ce soit gaz, matières premières, électricité, se couvrir, comme font les financiers. Donc voir ces acteurs sur le marché, ce n'est pas non plus étonnant. Et en dessous, alors vous avez des financiers purs. Donc vous voyez BNP, Société Générale, Goldman Sachs, même qui ne sont pas européens, ils ont le droit de venir sur ces plateformes pour faire du trading. Donc ça, ils ne se cachent pas. Enfin, voilà, c'est un moyen de faire du business qui a été offert par l'ouverture de ces marchés d'électricité. Alors, maintenant, vous avez des nouveaux métiers maintenant aussi, puisque vous avez dû en entendre parler, on parle beaucoup d'efficacité énergétique. On veut que les bâtiments consomment le moins possible pour respecter les objectifs qu'on s'est donnés, de modération de consommation, de pollution limitée en termes de CO2. Donc, il y a tout un tas d'aides proposées par des entreprises, notamment aux gros consommateurs, pour déplacer une partie des consommations, pour polluer moins, pour se sourcer intelligemment sur les marchés d'électricité. Donc vous avez des Dalkia qui s'annoncent, alors là je cite ce que je trouvais sur leur site, donc Dalkia c'est une filiale d'EDF, producteur d'efficacité énergétique, vous avez l'équivalent dans d'autres pays qui vraiment sont des coachs pour les consommateurs d'électricité. Vous avez aussi, et alors là ça va concerner plus particulièrement ce que je vais vous décrire aujourd'hui. Des gens qui opèrent ce qu'on appelle la flexibilité de consommation. Donc la flexibilité de consommation, c'est tout ce qu'on peut mettre en place pour moduler, déplacer dans le temps la consommation d'électricité. Donc il y a différents enjeux pour le faire. Je les ai un petit peu cités, notamment le fait de payer moins cher pour consommer. Si vous avez un tarif, d'ailleurs les tarifs, est-ce que vous connaissez les tarifs d'électricité auxquels on peut avoir accès en France? Qu'est-ce qu'on a de plus flexible en France aujourd'hui si on veut jouer, faire placer sa consommation d'électricité? Vous savez ou pas? Vous savez quel est le prix du kilowattheure en France? Pour les clients particuliers, ça chiffre à combien? Combien vous avez dit? C'est à peu près ça. C'est 15 centimes en gros. Si vous avez vraiment le prix constant, quelle que soit l'heure, le jour de l'année, vous payez 15 centimes d'euros votre kilowattheure. Et après, vous avez alors ce qu'on a de plus flexible aujourd'hui, offert aux clients particuliers, hein, c'est heure pleine, heure creuse. Donc j'ai plus exactement en tête, mais ça doit être genre 10 et 16 ou un truc comme ça. Donc 10 pour les heures creuses, qui sont essentiellement la nuit, et 16 pour le reste de la journée. Et là, si vous êtes prêt à être flexible, ce qu'on va voir un petit peu plus après, vous pouvez décaler votre machine à laver, votre véhicule électrique, pendant la période où ça coûte 10 centimes d'euros. Donc à la fin de l'année, vous gagnez, pas des milliers, des cents, mais vous pouvez gagner des sommes conséquentes en rapport à votre facture d'électricité. Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même tout un sujet de flexibilité de la consommation électrique. Voilà, ce sujet, historiquement, il est plutôt venu d'abord par les gros consommateurs, parce que quand vous jouez sur 10% d'ArcelorMittal, c'est tout de suite conséquent vu du système électrique. Quand on joue sur 10% de la consommation d'une maison, ça représente rien pour le système électrique. Donc voilà. Donc c'est venu d'abord chez ces gros acteurs, mais maintenant ça s'étend, et c'est justement ce que je vais vous présenter après, aux consommateurs particuliers. Donc essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que bientôt, vous pourrez peut-être participer à des mécanismes de flexibilité, c'est-à-dire je vous dirai peut-être, je mets à disposition mon véhicule électrique pour faire de la flexibilité sur le système, pour participer à que ça coûte moins cher de produire l'électricité, à qu'on pollue moins sur la plaque électrique française ou européenne. Voilà, donc ça va changer parce que jusqu'à maintenant, le paradigme, c'était que les consommateurs font un peu ce qu'ils veulent et c'est côté opérateur du système électrique qu'on se doit d'assurer l'équilibre entre production et consommation. Ça, c'est bon pour vous? Ça... Ok. Voilà. Alors, rapidement, je vais faire une troisième petite photo sur... qui nous mène au sujet du jour, qui sera ensuite un peu plus modèle et maths. Donc cette fois-ci, ça vient du site client RTE France, donc toujours réseau de transport d'électricité. Et là, je vous ai sorti la liste qui date d'hier, là, des opérateurs d'effacement en France. Donc opérateurs d'effacement, ce qu'on appelle effacement, ça veut dire vous coupez ou vous diminuez votre consommation électrique à un moment donné. Donc vous êtes appelé pour ça, que ce soit un opérateur du système, un gestionnaire du réseau ou même un trader. Il peut dire, OK, j'ai besoin que vous diminuiez à 19h de 10 MW votre consommation. Vous le faites, vous déplacez un peu plus loin pendant la nuit, par exemple, et ça, c'est une opération d'effacement. Et alors vous êtes rémunéré pour ça, parce que vous, c'est un effort personnellement de décaler votre consommation. Mais bien sûr, si on vous le demande, c'est que côté système électrique, ça rapporte quelque chose. Donc à la fin, on va se partager quelque part les gains apporté par cet effacement. Donc ça, c'est la définition de l'effacement. Maintenant, donc voilà, vous avez la liste. Là, pour le coup, elle est complète. C'est les, je ne sais pas combien il y en a, mais une vingtaine d'opérateurs d'effacement en France. Donc là, si vous regardez, vous avez donc des purs fournisseurs. Quand je dis purs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de moyens de production. Donc ça rejoint la question un petit peu qu'on avait tout à l'heure. C'est Direct Energie qui va juste faire intermédiaire, aller acheter de l'énergie sur les marchés, par exemple, et la revendre à ses clients. Donc ces gens-là, ils sont opérateurs d'effacement, ce qui paraît assez logique. Vous avez aussi les acteurs qu'on a vus juste avant, donc autour de l'efficacité énergétique. Vous avez, alors ça c'est un bloc qu'on voit de plus en plus venir chez nous, des gens qui viennent de la data. Donc ils sont habitués à enregistrer, traiter, faire de la valeur avec des données, et ils se placent sur ces services. Alors pourquoi? Bah, peut-être que vous avez entendu parler de Linky. Je ne sais pas si ça vous parle, Linky. Vous l'avez déjà chez vous? Non, peut-être pas ici. Bon, Linky, c'est une petite boîte jaune, pas très jolie, mais en fait, c'est un compteur intelligent qui va pouvoir mesurer chez les clients particuliers notamment ce qu'ils consomment en temps réel et échanger des informations entre système électrique et consommateurs particuliers. Donc en temps réel, on peut envoyer des incitations, par exemple, pour déplacer la consommation d'électricité. Donc c'est logique que les gens de la donnée se placent sur ces sujets parce que si vous êtes capable de récupérer efficacement et de traiter efficacement des données qui viennent d'un très très grand nombre de compteurs, vous pouvez gérer ce genre de service. Alors vous avez d'autres acteurs dans ce qu'on appelle l'Internet des objets, par exemple, ça rejoint un peu la même idée d'agrégation d'informations de plein d'objets intelligents. Et vous avez donc ce qu'on appelle des agrégateurs. Donc là, c'est un mot-clé qui revient de plus en plus dans notre domaine. Agrégateur, c'est juste l'action de sommer des petites actions individuelles de consommateurs particuliers. Donc vous gérez la façon d'inciter 1 000 consommateurs particuliers dans une ville, d'agréger leurs réactions pour arriver à une réaction agrégée qui est vendable sur le marché d'électricité, par exemple. Donc vous êtes juste ce gestionnaire de l'opération d'agrégation. Donc ça commence à exister, on en voit en France. Et donc, shading, c'est effacement. Donc, c'est exactement. Eux, ils sont vraiment dédiés à ce métier. Voilà. Bon, et puis là, c'est. Voilà. Demand side management, c'est la flexibilité de consommation. OK, je vais m'arrêter là pour la photo des joueurs. Après, on va passer plus au modèle. Est-ce que vous avez des questions sur l'état actuel de ces sujets ou... En gros, après, on va basculer plutôt maths. Donc, si. Mais on pourra revenir sur la physique hein, et tous ces mécanismes. Mais si vous avez d'autres questions sur ce bloc-là, n'hésitez pas à les poser tout de suite. Pas de questions. Bonne question. C'est parti. Alors, donc, je vais essayer de vous définir ce qu'on appelle demand side management. C'est donc la flexibilité de consommation. Donc, je le refais un coup. C'est vous êtes un consommateur particulier. Vous recevez un signal, une incitation tarifaire d'un opérateur du réseau qui vous dit, bah, ce soir, il vaudrait mieux consommer pendant la nuit plutôt qu'à la pointe. Parce que sinon, on va appeler des moyens de production très très chers qui polluent beaucoup. Donc c'est mauvais pour les opérateurs, mais indirectement, c'est mauvais pour les consommateurs. Que ce soit sur la facture par des effets clairement rétroactifs qu'on va payer par l'augmentation du tarif, par exemple, ou que ce soit en termes de conscience écologique, si on sait que tel soir, on a produit 2 fois plus de CO2 qu'on aurait pu, quoi. Donc c'est cette opération de déplacer dans le temps, de moduler vos consommations. Donc clairement, on ne va pas vous demander de le faire avec tous les usages. Il y a certains usages qui ne s'y prêtent pas. Si vous voulez regarder telle émission à telle heure, ce sera difficile de décaler. En revanche, si vous voulez charger votre véhicule électrique pendant la nuit, vous n'avez pas besoin de partir à 20 h le soir. Ça, c'est facile à déplacer. La machine à laver, ça peut le faire. Il y a certains usages qui se montrent plus flexibles que d'autres. Voilà, alors, juste, ça c'est marrant parce que... Vous avez sûrement suivi les débats autour de l'aéroport, enfin Notre-Dame-des-Landes. Ça, c'était marrant, c'était un signe de protestation pour dire on n'est pas d'accord. Clairement, nous, on voit dans ce sujet aussi qui est assez innovant. On veut changer la façon qu'ont les gens de consommer l'électricité, qui est quand même une liberté essentielle de la vie de tous les jours. On s'en rend plus compte, mais essayer de vivre une journée sans électricité, ce sera, vous allez le sentir. Donc voilà, nous, on ne veut pas arriver à ça. Donc il y a aussi tout un tas d'actions sociétales, sociales pour. Montrer aux gens l'intérêt, montrer que ce n'est pas un effort trop important de rentrer dans ces sujets, mais clairement, on va se heurter quelquefois à des têtes dans le sable. Voilà. Alors, maintenant, en pratique, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour vous je ne sais pas, ça commence à sortir. Hein, dans quelques années, vous pourriez avoir l'occasion, si vous regardez un petit peu les offres des fournisseurs d'électricité, de signer un contrat de flexibilité. Donc, si par exemple, il vient d'EDF, ça veut dire au début de l'année, vous pouvez signer un contrat qui dit. Ok, cette année, mon véhicule électrique, ma machine à laver vont être flexibles. Donc là, vous signez, vous êtes engagé, sans trop savoir ce que ça veut dire, mais on va le découvrir. Et alors là, donc, je vous raconte une histoire hein, pour faire passer les idées, mais il y en a des tas d'autres qui passent aussi dans le cadre de la flexibilité. Mais typiquement, ce qui pourrait se passer, c'est que chaque jour, donc vous allez rentrer chez vous, vous avez un certain nombre d'activités qui vont consommer de l'électricité, et là. Au lieu de consommer bêtement, de lancer votre machine à laver tout de suite, de brancher votre véhicule électrique et de consommer tout de suite à la puissance max, on va appliquer donc un mécanisme hors ligne. Donc c'est offline. Donc hors ligne, ça veut dire avant le temps réel. On va échanger de l'information pour se coordonner dans un quartier, par exemple, avec vos voisins, mais avant de lancer les consommations. Donc ça, il y a plusieurs enjeux autour de ça. Faire du offline, ça permet en temps réel, de plus avoir à échanger d'informations. Vous êtes coordonné une bonne fois pour toutes, et quand votre véhicule électrique a commencé à charger, quand la machine à laver est lancée, vous n'avez plus besoin d'échanger d'informations avec vos voisins. Donc c'est un peu plus facile vu du consommateur, parce que ça veut dire que sur les applications, ce qu'on veut, après cette phase hors ligne qui va prendre quelques secondes, il aura sur son application, ton véhicule va se charger entre 22 h et 2 h du matin. Si bah, exceptionnellement tu veux sortir à 2 h, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle hors ligne. Et on va faire, donc là on commence à connecter à des notions, alors que vous n'avez peut-être pas vu complètement, mais je les définirai après. On va jouer une dynamique de coordination entre les consommateurs d'un quartier, par exemple. Donc on va considérer que les consommateurs du quartier sont des joueurs, vos véhicules électriques dans le quartier sont des joueurs, et vous échangez de l'information, vous jouez une dynamique de meilleure réponse, donc vous devez reconnaître le terme meilleure réponse, pour trouver un équilibre de Nash. Donc on va expliquer ensuite pourquoi l'équilibre de Nash est intéressant dans ce contexte et qu'est-ce qu'il apporte. Donc, on va trouver une configuration stable. J'imagine que le concept de stabilité à la nage, c'est quelque chose que vous avez vu dans le cadre de votre cours. Donc, à la fin de cette dynamique, on va trouver un point stable. Donc, individuellement, tous les véhicules électriques de votre quartier n'auront pas intérêt à changer leur décision. Donc ça, encore une fois, vous le jouerez pas, vous aurez pas à répondre oui, non, je veux le faire 22 h, 23 h. C'est des machins intelligents qui vont se coordonner entre eux. Vous aurez juste rentré vos préférences. Donc c'est-à-dire quand vous rentrez, vous dites bah moi, le véhicule électrique, normalement, je repars que demain à 8 h du matin. Je vais au boulot, donc c'est 30 km en moyenne. Voilà. Et à partir de là, vos véhicules électriques peuvent se coordonner via cette dynamique et trouvent une configuration stable qui respectera vos préférences et qui sera bonne en un sens qu'on va voir. Voilà. En temps réel, donc online, par opposition à offline, on va juste appliquer les décisions. Donc c'est très simple, ça simplifie la vie côté consommateur. Donc une fois que votre véhicule électrique est chargé, vous appliquez le profil de consommation que vous avez trouvé à l'équilibre. Donc à l'équilibre, c'est à la fin de la dynamique de meilleure réponse. Voilà, donc en gros, c'est un peu la trame qu'on va suivre aujourd'hui, en repassant à chaque étape sur des concepts que vous avez vus dans le cours. Donc il y en a quelques-uns qui seront nouveaux pour vous. Je passerai plus de temps à les définir, mais même s'il y a des points qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas à m'interrompre. Voilà, et il y a quand même une question que j'ai passée sous silence, mais qui est au fond très très importante, c'est vous avez joué toute l'année, tous les jours, vous avez dit OK, mon véhicule électrique est flexible, mais pour jouer, faut il faut qu'il y ait des joueurs, et si à la fin, il n'y a personne qui re-signe en bas du contrat d'EDF ou d'Engie ou je ne sais quel autre opérateur, il n'y a pas de joueurs, donc il n'y a pas de flexibilité. Donc il faut quand même convaincre les gens qu'il y a un intérêt à jouer ce jeu, que ce n'est pas trop contraignant pour eux. Donc là, on peut jouer sur les euros, on peut jouer sur le CO2, on peut jouer sur l'aspect communautaire, mais clairement, si à la fin de l'année, personne ne re-signe, il n'y a aucun gain associé à ces mécanismes. Voilà, alors. Au passage, il y a un certain nombre de questions de recherche qui rejoignent directement certains concepts que vous avez vus et qui rejoignent clairement ce que font des chercheurs comme moi à EDF et dans d'autres boîtes. Donc, sur la dynamique de meilleure réponse, la question, on va le voir, c'est est-ce qu'elle converge? Parce que si vous échangez de l'information avec vos voisins mais que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, entre guillemets, ce genre de dynamique n'a pas forcément d'intérêt d'un point de vue applicatif. Vous ne pouvez pas attendre des heures avant d'avoir une décision qui soit bonne pour vous, pour le système électrique. Donc, en ce qui concerne le point stable de Nash que vous allez trouver, donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il est efficace? Donc déjà, il va falloir définir l'efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire efficacité? Donc il y a toujours un compromis, comme dans plein de systèmes. Il y a une efficacité au sens individuel. Vous voulez pas, ça représente un effort de décaler votre machine à laver, s'il faut la vider à 22 h au lieu de 19 h quand vous rentrez, ce genre de questions. Mais il y a aussi les aspects système électrique. Si on agrège la flexibilité d'un grand nombre de consommateurs dans une ville, il faut que ça rapporte quelque chose à l'opérateur de l'énergie de la ville ou à l'opérateur du réseau d'électricité. Donc il y a aussi ces aspects-là qui entreront en compte dans l'efficacité. Voilà, alors juste, bah, ça j'imagine que vous connaissez hein, maintenant cette notation. Donc c'est les décisions de tous les consommateurs flexibles du quartier, sauf I. Donc juste avoir en tête que L1, c'est bien un vecteur. Donc c'est un profil de consommation de taille grand T. Chaque consommateur I a un profil de consommation. Donc ça, c'est le premier mécanisme de tarification de la flexibilité. On va en proposer un alternatif qui aura certains avantages, on va le voir. Ah oui, excusez-moi, pardon. Pourquoi on l'appelle proportionnel à la journée, parce que justement, on fait un partage qui est proportionnel à l'énergie qu'on consomme dans la journée. Et là, donc, ça va se voir clairement. Ici, on l'appelle proportionnel à l'heure, parce qu'en fait, vous avez cette formule, sauf que le partage proportionnel, on ne va pas le faire sur le niveau d'énergie totale de la journée, mais on va le faire heure par heure. Donc là, vous voyez, on a intégré ce terme de proportion de la consommation du quartier. Donc ça, c'est la proportion qui est de la consommation du quartier à l'instant T qui est consommée par I. Donc on partage les coûts à chaque instant proportionnellement à la quantité qu'on consomme relativement à notre quartier. C'est bon pour vous, ces deux modèles alternatifs? Donc maintenant, essentiellement, on va dérouler ce qu'on fait souvent en tant que chercheur dans la théorie des jeux appliqués. Donc l'idée, c'est quand même, au bout du compte, c'est d'avoir un mécanisme, un système qui soit efficace pour les joueurs et pour les opérateurs du système. Donc, on va dérouler un algorithme qui permet de trouver un équilibre. Une fois que vous avez trouvé un équilibre, on regarde s'il est efficace et on partage le gâteau entre les acteurs. Voilà, donc on va commencer pour ça par définir un jeu. Donc, on va le définir sous une forme normale que j'imagine vous avez dû voir dans le cadre de votre cours. Donc, sous forme normale, un jeu, c'est trois éléments. C'est l'ensemble des joueurs. Donc là, nos joueurs, ce seront les consommateurs flexibles du quartier. Les actions stratégies, donc là, j'ai rassemblé l'ensemble des contraintes de la consommation flexible. Donc vous avez I, il a un profil de taille grand T, les contraintes de borne sur sa consommation et la contrainte de volume d'énergie flexible. Donc ça, c'est l'ensemble des actions possibles pour le joueur I. Alors juste au passage pour dire, en fait, ça, le fait d'avoir intégré un petit indice T, ça permet de coder le fait, par exemple, que le véhicule électrique n'est pas à la maison. Si vous mettez à 4 heures de l'après-midi, quand vous n'êtes pas chez vous, cette borne-là à 0 et cette borne-là à 0, il est impossible pour votre véhicule électrique de consommer dans le modèle. C'est juste pour simplifier un tout petit peu les contraintes qu'on embarque dans le modèle. Voilà, et vous avez des fonctions de coût. Donc là, on va considérer ce terme BI. Donc B, c'était pour bill, hein, c'est la facture. Donc on va considérer les deux alternatives, soit proportion par jour, soit proportion par heure. Et on va rajouter un second terme, parce qu'on n'est pas fou, FI de LI. Donc c'est une fonction qui traduit à quel point ça représente un effort pour I de consommer selon le profil LI. Donc ça, c'est propre à chacun. Ça dépend de à quel point on veut ressortir le soir avec notre véhicule électrique, à quel point on aime bien être sûr à l'avance d'avoir assez d'énergie dans le véhicule, ce genre d'effet. Ça peut aussi intégrer un tarif, parce qu'on n'est pas forcé d'avoir tous accès au même tarif. Mon voisin peut avoir le tarif constant 15 centimes de l'heure. Moi, je peux être à un tarif heure pleine, heure creuse. Ça, cet aspect supplémentaire, différent de mon voisin, je peux l'intégrer à la fonction FI. Voilà. Donc là, vous avez les trois éléments qui définissent un jeu. C'est clair pour vous que c'est un jeu? En fait, pourquoi c'est un jeu? C'est ce terme-là. Donc là, c'est ce que j'ai mis en rouge. Je ne sais pas si ça se voit très bien. Comme le terme de facture lié à la flexibilité fait intervenir le profil de consommation totale du quartier, si le quartier, au travers des décisions individuelles de tous les consommateurs qui le composent, va faire une pointe de consommation énorme à 19 h, ça va coûter cher à tout le monde. Donc ça dépend pas seulement de ce que je fais moi, mais ça dépend de ce que fait mon voisin. Alors ça peut vous sembler délirant, peut-être. En fait, il y a pas mal de systèmes où ça existe déjà, sans qu'on nous le dise de façon très claire ou très ouvertement. Est-ce que vous avez une idée d'un système où, notamment, on a exactement le mécanisme de paiement proportionnel à la journée? C'est dans les immeubles, les copros. Sais pas si vous prenez l'ascenseur parfois. Il y a donc dans plein de copropriétés, je ne sais pas si vous, quand vous regardez la facture, il y a un poste ascenseur. Et en fait, il y a plein d'endroits où vous partagez les coûts de l'ascenseur proportionnellement à l'étage auquel vous habitez. Donc ici, si vous mettez EI, c'est le nombre d'étages que doit gravir à pied ou en ascenseur monsieur I, et ici EJ, la même chose pour les voisins de l'immeuble, vous appliquez exactement cette formule avec là les coûts liés à l'usage de l'ascenseur. Donc si vous montez à pied, vous gagnez de l'argent pour vous, mais vous gagnez aussi de l'argent pour vos voisins. Et ça proportionnellement au facteur nombre d'étages. Donc ça existe déjà, vous l'avez déjà. Après, il y a des systèmes où c'est un peu plus caché, hein. Quand vous avez un certain nombre de téléphones portables dans un endroit donné, tout le monde ne peut pas consommer un niveau d'information, les bits, etc., à fond, au même moment, au même endroit. Et il y a des régulations qui se font automatiquement dans les systèmes télécoms qui s'apparentent exactement à des jeux. Donc là, c'est si tout le monde veut appeler exactement au même endroit, il y a un problème, on aura une qualité dégradée. Bien sûr, il y a aussi des facteurs qui vont être différenciants entre les joueurs. Tout le monde n'a pas exactement la même qualité d'abonnement. Mais il y a aussi ces effets qui se passent dans les télécoms. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup, beaucoup d'applications de théorie des jeux dans les télécoms. Elles sont venues avant celles qu'on voit maintenant dans le monde électrique. OK, donc délirant, mais pas forcément complètement. Alors juste, dernière remarque par rapport au jeu. On ne le fera pas dans les résultats que je vais décrire ici, mais ajouter une contrainte qu'on appelle couplante chez nous entre les décisions des différents consommateurs du quartier. Donc ici, vous voyez que si on fait la somme des consommations flexibles des clients du quartier, c'est plus petit qu'un niveau de consommation maximale à l'instant T imposé pour le quartier. Donc ça, typiquement, c'est des histoires de capacité. Les tuyaux, les lignes qui apportent l'électricité jusqu'au quartier, elles ne sont pas de taille infinie. Donc on peut rajouter ce genre de niveau. Voilà. Donc là, on a, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme, mais on a affaire à des jeux qu'on appelle généralisés. Parce qu'il y a un couplage des décisions à travers le coût, mais aussi à travers les contraintes. OK, si c'est clair pour vous, donc j'enchaîne avec la première étape, et là je pense que c'est un concept qui est nouveau pour vous, d'après ce que m'a dit Monsieur Zilioto, la dynamique de meilleure réponse. Donc essentiellement, c'est une dynamique qui permet de coordonner des décisions individuelles, les décisions de joueurs, pour trouver souvent une configuration stable. Alors, comment ça se passe? C'est un algorithme qui n'est pas si compliqué que ça, on va le décrire au fur et à mesure. Donc, je vous demande d'abord de regarder ces deux points-là, les points 1 et 2. Donc là, vous voyez ce problème ici, là. Est-ce que vous reconnaissez? C'est quoi en fait ça? Ça, c'est un concept que vous connaissez là. Ça. Tac. En plus, c'est un peu guidé par le nom de la dynamique. Mais vous voyez ou pas? Non? En fait, c'est la meilleure réponse. Là, L-I, donc c'est les décisions de tous les joueurs sauf I. K, c'est l'indice de la dynamique. Donc vous avez des itérations, en fait. Et à chaque itération, les joueurs vont remettre à jour leurs décisions. Donc là, vous figez, pardon, hop, vous figez les décisions des autres joueurs que I à l'itération K. Et vous avez un problème de minimisation du coût de I qui dépend que de sa variable à lui, qui est le profil LI. Donc si vous êtes capable de résoudre ce problème, en fait, vous trouvez la solution à la meilleure réponse du joueur I. Et là, donc c'est juste pour dire, on choisit une des décisions possibles qui minimise le coût de I, qui résout le problème de meilleure réponse. Et il y a des cas où il y a plusieurs solutions. Donc là, on peut choisir aléatoirement, par exemple, une des décisions possibles. Maintenant, donc, si on reconnecte tout ça à la dynamique, on a besoin d'un certain nombre d'entrées à cette dynamique. Donc on fixe, donc K, je le redis, hein, c'est les itérations de la méthode. Donc à l'itération 0, vous fixez des profils de consommation pour tous les joueurs, tous les consommateurs flexibles du quartier. Donc par exemple, une façon de faire très pragmatique, c'est pour les véhicules électriques, vous dites, bah, dès qu'ils arrivent à la maison, ils consomment à la puissance max jusqu'à ce qu'ils atteignent le niveau d'énergie qu'ils ont demandé. Donc ça peut être une décision initiale pour votre algorithme. Et après, vous avez besoin de deux éléments qui sont juste pour fixer un critère d'arrêt de la dynamique. Alors, maintenant, vous fixez, ça c'est l'itération initiale, et ensuite, tant que le critère d'arrêt n'est pas vérifié, on va itérer sur la dynamique. Donc le critère d'arrêt, il y a deux aspects. Le premier, c'est écrit ici. Donc là, vous avez en gros à quel point les décisions de l'ensemble des joueurs entre l'itération K-1 et l'itération K, elles ont bougé. Donc là, vous avez en norme 2, mais peu importe, l'écart entre la décision du joueur I à l'itération K-1 et celle qu'il a prise à l'itération K. Donc là, vous sommez sur les joueurs, vous avez à quel point les joueurs ont changé leur décision à l'itération K. Donc si ça, c'est grand, supérieur à ce facteur état, on continue. Et il y a un deuxième aspect au critère d'arrêt, c'est juste une sorte de garde-fou, c'est un nombre d'itérations maximum. C'est juste pour s'assurer. De manière générale, on n'est pas sûr que ça va converger, donc il faut à un moment arrêter la méthode si jamais ce n'est pas le cas. Voilà, donc maintenant, vous passez à l'itération suivante. Pour chaque joueur I, vous allez résoudre le problème de meilleure réponse. Vous mettez à jour les décisions individuelles et vous continuez tant que ce critère d'arrêt n'est pas vérifié. Ah, alors ça, très bonne question. C'est tout le monde a entendu, hein, c'est pourquoi ce critère d'arrêt et pas un autre? Ça peut être très arbitraire. Souvent, ce qui se passe, c'est que initialement, en tant que chercheur, on fixe ce genre de critère d'arrêt assez mathématique, on teste, on regarde ce que ça donne. Et après, il y a des critères d'arrêt qui peuvent être plus ou moins bons pour capter les spécificités du système. Donc notamment, il peut se passer des choses, par exemple, si on a des très gros joueurs et des petits joueurs. Souvent, on se rend compte que bah, les gros joueurs ont beaucoup plus d'influence sur le système. Donc dans le critère d'arrêt, on aura tendance à les regarder un peu plus que les autres, par exemple en mettant une pondération plus importante sur leur consommation à eux. Donc ça vraiment après c'est un peu ad hoc, en fonction des systèmes, on va essayer d'affiner le critère du mieux possible. Sachant qu'il y a quand même des propriétés essentielles qui souvent sont pas très sensibles au choix du critère d'arrêt, comme par exemple la convergence. La convergence, fondamentalement, c'est quelque chose d'intrinsèque. Et la plupart du temps, dans ces systèmes-là, en tout cas de ce que je connais, quel que soit le critère d'arrêt, la propriété de convergence ou non, on la garde. Alors, tout à fait. Alors, ça, c'est super question parce qu'en fait, derrière, il y a des choses hyper importantes pour le système électrique qui peuvent se cacher. Typiquement, aujourd'hui, les coûts du système électrique, c'est à la pointe. Je ne saurais pas vous donner le chiffre, je ne l'ai pas en tête, mais ce qu'on paie pour fournir de l'électricité aux Français aujourd'hui, il y a peut-être 60% qui est dû à ce qui se passe entre 18 et 20 heures, essentiellement en hiver, quoi. Donc ça pousserait plutôt à regarder entre 18 et 20 heures précisément ce qui se passe et à oublier un petit peu, par exemple, la nuit, où finalement, si ça bouge, les coûts en jeu sont très faibles. Donc on aurait plutôt tendance à regarder dans le détail la dentelle aux instants où on sait que ça va coûter cher et laisser de côté ce qui est moins cher. Donc typiquement, ça pourrait aller vers une norme infinie, prendre le max et regarder ce qui se passe autour du max, quoi. Il y a ça qui se cache. Bah, du coup, ça me fait penser à une autre marque. Ici, en fait, il y a déjà, là, on le fait de manière séquentielle. C'est assez important de voir que quand le joueur I, à l'itération K, il prend sa décision, il sait exactement quelles sont les décisions courantes des autres joueurs. Donc là, en termes d'informations, il a les informations courantes. Maintenant, on peut appliquer la même dynamique, mais en supposant que tous les joueurs en parallèle remettent à jour leurs décisions. Et donc là, quand moi, joueur I, je mets à jour ma décision, je ne sais pas ce que font les autres simultanément, quoi. Donc la version simultanée, elle peut avoir des avantages comme le fait d'être plus rapide. Mais en revanche, parfois, on a la convergence du cas séquentiel, parce que là, vraiment, on voit exactement où en sont les décisions courantes, et sans avoir la convergence du cas simultané. Donc ça, c'est première remarque, c'est dire, attention, mise à jour simultanée ou séquentielle des décisions, ça peut mener à des comportements assez différents, et c'est le cas de manière très générale, hein. Et deuxième point, il peut y avoir un intérêt à choisir de manière non arbitraire l'ordre de mise à jour des décisions. C'est-à-dire fixer un ordre des joueurs qui est choisi intelligemment. Donc ça, typiquement, ça rejoint ce que je vous disais. S'il y a des gros joueurs qui impactent énormément la structure de consommation du quartier, on pourrait avoir tendance à vouloir mettre à jour leurs décisions d'abord. Parce que les petits joueurs, quand ils changent de décision, peu importe pour le gros joueur. En revanche, si le gros joueur il met à jour d'abord, les petits joueurs, ils ont quelque chose d'intéressant, la vision la plus précise de ce qui va se passer à la prochaine itération. Donc on peut avoir intérêt à fixer un bon ordre de mise à jour des décisions. Là, je ne rentrerai pas dans ce niveau de détail, mais clairement, ça fait partie, en bout de chaîne, quand on veut vraiment avoir un mécanisme performant, ça fait partie des questions qu'on se pose. Ah oui, alors, tout à fait. Bah, très bien, j'avais oublié cette remarque aussi. Le choix du profil initial peut être très important. Tout comme en optimisation, je ne sais pas si ça vous parle, mais vous avez des routines, par exemple les méthodes de descente. Si vous avez plein d'optima locaux, si vous partez dans une zone différente, vous pouvez trouver un optimum qui est de qualité très différente. Vous pouvez être coincé dans les cuvettes locales. Donc là, c'est en optimisation, c'est lié au choix du point initial. C'est exactement la même chose en jeu. Il y a des, voilà. Alors nous, on va le voir dans ce cas particulier qui est quand même stylisé. On aura un seul équilibre. Donc on sait que si ça converge et on sait que ce sera un équilibre, on sait où on se trouvera, quoi. Et du coup, ces enjeux-là seront un peu de moindre importance dans ce cas-là. Mais de manière générale, c'est hyper important. Ouais. Ok, donc si c'est bon pour la dynamique, maintenant on va se poser la question, bah, est-ce qu'elle converge? Donc déjà, il faut un peu démystifier la convergence. C'est pas forcément le Graal au sens où parfois on peut avoir des performances qui sont meilleures avant d'avoir convergé que à la convergence. Mais la convergence a ce mérite qu'elle est stable, ici stable au sens de Nash. Donc il y a des choses qui bougent plus et ça veut dire quelque part ça traduit une constance des décisions, qu'elles soient individuelles ou du système. Et ça a de la valeur aussi dans ce genre de mécanisme. Alors donc est-ce que la dynamique de mes réponses, donc j'ai pas dit, mais BRD c'est pour Best Response Dynamics, est-ce qu'elles convergent? Alors oui, on a de la chance dans ce cas-là. Et donc ça vient d'une propriété qui s'appelle la propriété de potentiel. Je pense pas que vous en ayez entendu parler dans ce cours. peut-être que je me trompe. Mais c'est une propriété assez standard qui va fixer une grande catégorie, une grande classe de jeux. En fait, une classe où il y a plein de choses qui se passent bien. Donc, c'est pas forcément la classe la plus intéressante pour faire de la recherche de pointe en théorie des jeux. Mais du point de vue applicatif, on sait notamment que la dynamique de meilleure réponse converge. Donc, c'est intéressant. Si on sait qu'on se trouve dans cette classe de jeux, on va hériter d'un certain nombre de propriétés qui sont intéressantes du point de vue applicatif. Voilà, donc je vais, petite définition supplémentaire, qu'est-ce qu'un jeu de potentiel? Alors, donc vous voyez, un jeu est dit de potentiel s'il existe une fonction phi qui est justement le potentiel du jeu, tel que on a la propriété suivante qui est vérifiée. Donc ici, vous voyez, si le joueur i change de décision entre Li et Li', donc entre le vert et le bleu, alors que les autres joueurs restent à un profil de décision L-I, alors la déviation que vous avez en signe pour son coup, vous la retrouvez dans la déviation avec les mêmes arguments pour le potentiel. Donc là, vous voyez, ce qui a changé entre la gauche et la droite, c'est que les fonctions. Les arguments sont les mêmes. On a laissé L-I fixe dans les quatre fonctions et on a basculé de Li à Li'. Donc ce qui est important de voir, c'est que si vous, en tant que joueur i, vous payez plus cher avec la décision Li', donc si cette différence est positive, alors on voit la même chose dans la différence sur la fonction phi. Et la fonction phi, elle est indépendante des joueurs. Il n'y a pas d'indice i. Donc quel que soit le joueur, on a cette propriété. Donc essentiellement, ce qui va se passer, qui est assez intuitif et qui est comme d'ailleurs ce qu'on voit dans les systèmes dynamiques, c'est qu'il y a une fonction, le potentiel, qui va tendre à coordonner le système. Ici, le système, c'est les différents joueurs. Donc, si les joueurs veulent tous diminuer leur coût, eh bien, la fonction potentielle elle va aussi diminuer. Et dans certains cas, on sait que la fonction potentielle elle ne peut pas diminuer à l'infini. Donc, on va être bloqué, donc on va converger, notamment dans une dynamique comme la dynamique de meilleure réponse. Ça, c'est bon, cette idée de potentiel. C'est, en fait, très souvent, en tant que joueur appliqué, c'est le genre de choses qu'on essaie de tester numériquement. Si on voit que ça converge en appliquant la dynamique de meilleure réponse, on se demande. Est-ce qu'il n'y a pas un potentiel qui se cache derrière mon jeu, quoi, et qui stabilise la coordination des joueurs? Voilà. Donc c'est. Vous avez aussi cette propriété dans de nombreux jeux, par exemple des modèles de congestion routière. Vous avez peut-être vu quelques exemples dans votre cours. Vous avez des réseaux. Les joueurs, c'est les automobilistes, ils se battent dans le réseau en fonction des choix individuels, l'agrégation des choix individuels. Soit vous allez passer du temps sur la route, soit vous allez aller vite faire votre travail. Donc là, il y a des modèles qui existent et on voit qu'il y a aussi cette structure de potentiel. Donc ça stabilise les principes de coordination qu'on pourrait vouloir mettre en place dans ces systèmes. Voilà. Donc maintenant, je vous donne l'équation, mais à la limite, peu importe. Ça, c'est l'équation du potentiel dans le cas où on a une tarification proportionnelle au jour. Donc juste pour vous donner une petite intuition, en fait, tout vient du fait que, si vous vous rappelez bien, la formule des factures, c'était EI sur la somme des EJ fois ce terme. Donc en fait, tous les joueurs tirent dans le sens de la minimisation de ce coût total du réseau local, du système local d'électricité. Donc c'est logique quelque part qu'on ait un petit peu cette stabilisation par le potentiel, puisqu'on l'a forcé un petit peu dans l'écriture des factures. Et là, on rajoute juste les termes individuels. Et vous pouvez faire le calcul, je l'ai mis là, non, je l'ai pas mis, ok. Vous pouvez faire le petit calcul si vous voulez. Effectivement, on a bien cette propriété au-dessus, avec cette fonction potentielle. Voilà. Dans le cas des paiements horaires, donc la facture proportionnelle à ce qu'on consomme heure par heure, on trouve la propriété, mais dans un cas plus restreint, parce que là, justement, le côté jeu d'équipe, le fait qu'on veuille tous minimiser. Les coûts totaux se retrouvent moins directement dans les factures. Et là, il faut travailler un petit peu plus. Donc, c'est dans le cas des coûts quadratiques. Donc, ça, c'est des modèles classiques pour traduire les coûts du système électrique. En gros, pour faire simple, on appelle les moyens de production par coût marginal croissant. Donc, typiquement, si vous voulez satisfaire 60 gigawattheures, qu'il est midi, vous allez d'abord appeler la production renouvelable, qui a un coût marginal quasiment zéro. Ensuite, vous appelez les moyens de production qui sont au coût marginal au-dessus, donc typiquement le nucléaire en France. Et après, vous entassez comme ça, successivement, vos moyens de production par coût marginal croissant. Donc si on regarde ce que ça fait, en fait, ça fait une courbe linéaire par morceau et qu'on approxime très souvent par des fonctions quadratiques. Et ça, c'est valable dans des modèles de ce secteur. Voilà. Donc, et après, on trouve la formule, c'est un peu plus de calcul. Ça, c'est en fait, c'est un étudiant là, qui est en thèse chez nous qui a fait ses travaux. Paulin Jacquot, si vous voulez regarder. Voilà. Alors maintenant, on a résolu le problème de convergence de la dynamique. Donc, grâce à la propriété de potentiel, qu'on applique une facture proportionnelle par jour ou par heure, on va avoir la dynamique de coordination entre nos joueurs, nos consommateurs flexibles, qui va converger. Maintenant, la question, c'est vers quel point on converge. Donc, vous avez peut-être compris qu'en fait, comme on arrive vers un point où individuellement, on n'a plus intérêt à changer, ça, c'est la définition d'un équilibre de Nash. Donc, on arrive à un équilibre de Nash. Donc, c'est stable au sens où chaque consommateur individuel I n'a plus intérêt à modifier son profil LI une fois qu'on a convergé. Voilà. Alors juste, vous avez peut-être vu cette distinction, mais dans ce cadre-là, si on a un nombre fini d'actions, on sait qu'au bout d'un... En gros, il y a un nombre fini de configurations, de configurations de décision pour l'ensemble des joueurs. Donc forcément, on va converger exactement au sens où chaque joueur, à la fin de la dynamique, va choisir exactement une action dans son ensemble discret d'actions. Et donc, ce sera bien défini. Quand on est dans des ensembles infinis, donc comme c'est le cas avec les contraintes que je vous ai présentées, là, on va avoir une convergence qui est imparfaite. Essentiellement, on va arriver à, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais un epsilon équilibre de Nash. Et donc, on n'aura pas intérêt à bouger à epsilon près, quoi. C'est juste un petit raffinement. Dans les deux cas, il y a une sorte de stabilité individuelle. Bah donc ça, j'imagine que c'est clair pour vous, la définition d'un équilibre de Nash. Donc on va converger vers un équilibre de Nash. Voilà. Mais alors, j'imagine que c'est clair pour vous que, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de déviation collective qui serait profitable, même individuellement, ou collectivement. Vous pourriez vous mettre d'accord avec votre voisin et si tous les deux vous bougez simultanément, c'est mieux pour vous deux, quoi. Ça peut exister. C'est un cadre différent. Nous, on considère ici qu'on n'autorise pas ces déviations. Voilà. Alors, maintenant, il y a une autre question qui intervient souvent dans ce genre de modèle, c'est est-ce que notre équilibre de Nash, il existe? On espère, parce que si notre méthode, elle converge et qu'elle converge vers un équilibre de Nash, a priori, c'est qu'il existe, mais et est-ce qu'il est unique? Donc, ça rejoint une question qui m'a été posée. S'il est unique, du coup, on sait que forcément, on va converger vers cet équilibre. Il y a des questions qu'on n'a plus à se poser, comme le choix du point initial de la dynamique. Enfin, elle se pose quand même pour une histoire de rapidité, à quel point on va être rapide pour aller atteindre ce point. Mais en termes de quel point on va atteindre, elle ne se pose plus. Donc voilà, donc là, je vais le mentionner juste. Si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder les papiers qui sont derrière. Mais on a unicité de l'équilibre dans les deux cas, le cas paiement par jour, enfin facture par jour et facture par heure. Voilà, donc à nouveau, dans le cas facture par jour, le résultat est disponible de manière plus générale. Dans le cas des factures par heure, on est obligé de prendre des fonctions de coût quadratiques. Je passe ça. OK. Alors, tac. Maintenant, je vais vous montrer juste un petit exemple pour que ça vous parle d'une illustration numérique de la dynamique de meilleure réponse. Alors, je vous la fais. OK. Alors, on va la relancer. Alors, ce que je vais vous montrer là, c'est une petite animation qui montre. Ça s'affiche. OK. Voilà. Bon, on va la mettre en boucle le temps que j'explique, mais déjà, alors plusieurs infos à regarder sur l'illustration. En bleu, ce que vous voyez en dessous là, c'est la courbe de consommation non flexible du quartier. Donc c'est le L0 dans le modèle. Donc vous voyez typiquement, bah, c'est valable dans plein de systèmes électriques, hein, mais il y a une forte consommation à la pointe le soir. Les gens rentrent à la maison, font la cuisine, s'éclairent, etc. Pendant la nuit, il y a un creux. Et ce que vous voyez en rouge, c'est la courbe de consommation totale du quartier. Donc c'est L0 plus somme sur I des LI à mesure que la dynamique avance. Donc quand la courbe rouge évolue, ça veut dire que la dynamique avance. Et ici, alors ce que vous voyez, ah mince, ça repart ou pas? Non? Ça repart, ok. Initialement, vous avez les véhicules électriques qui se branchent et ils chargent à la pointe du soir au moment où ils branchent leur véhicule. Donc ça, c'est le point initial de la dynamique. Ensuite, à mesure que les joueurs, les véhicules électriques mettent à jour leurs décisions, on arrive vers un profil de consommation globalement aplati. C'est une forme qu'on aime mieux voir du côté des opérateurs du système électrique, parce que là, typiquement, on ne va pas appeler les moyens qui coûtent cher, qui polluent beaucoup, et pendant la nuit, on va appeler d'autres moyens de production, par exemple le nucléaire, qui coûte beaucoup moins cher. Mais de manière générale, le nucléaire ou pas, le fait d'avoir une courbe de consommation constante, c'est le Graal du point de vue des opérateurs du système électrique. Même en termes de prévisibilité à l'avance pour les systèmes, la conception des systèmes, bah vous avez, vous, vous empilez, vous construisez exactement les moyens de production qu'il vous faut pour être constant dans le temps. Et après, il n'y a plus de gymnastique entre la pointe, le creux. C'est un peu le rêve, mais de plein de systèmes industriels, hein, pas seulement l'électricité. Donc voilà. Et là, vous voyez que ça converge. C'est juste pour vous donner une illustration. Alors, aussi, bah voilà, vous voyez l'ordre de grandeur, c'est même moins que ce que je disais tout à l'heure. Donc là, vous avez 30 foyers. Vous voyez, la pointe non flexible, elle est de l'ordre de 40 kW. Donc si vous enlevez les véhicules électriques dans ce quartier texan, ce jour particulier-là, la pointe, c'était 40 kW. Donc c'est 1,5 kW par maison. Et là-dessus, vous rajoutez, donc là, on avait dû rajouter peut-être 10 véhicules électriques. Ça va être ça. Et ben, vous voyez, hein, si vous rajoutez les véhicules électriques, la pointe, elle triple pas, mais elle le double. Elle double facilement, quoi. C'est juste pour vous donner aussi un ordre de grandeur des chiffres sur cette question. Voilà. Alors, toc. Ok, il nous reste 20 minutes. Très bien. Alors, ça rejoint encore une fois la question que vous avez posée. Il y a aussi, on cherche d'un point de vue pratique à regarder la vitesse de convergence de cette dynamique. Donc là, c'est juste pour dire, on a observé numériquement sur des simulations à quel point on convergeait vite. Et donc, vous pouvez voir, ici, c'est le critère de convergence. Tout à l'heure, la somme des écarts en norme 2 au carré là sur les joueurs. Et ici, ce qu'on appelle cycle, c'est l'indice K. Donc pour un cycle donné, vous avez tous les joueurs, tous les véhicules électriques ici, qui remettent à jour une fois leur décision. Et là, vous voyez, donc au début, on a à peu près une valeur de 100 sur le critère d'écart là en norme 2. Et très vite, parce que là, c'est un axe en graduation logarithmique, vous avez une décroissance de cet écart. Et là, typiquement, nous, les questions qu'on se pose, c'est à quel moment on arrête? Parce que là, vous voyez, franchement, entre 10-4 et 10-5, surtout si à la pointe, ce qui nous intéresse, ça bouge plus, on pourrait dire on arrête. Et là, c'est quasiment instantané parce que ça veut dire mettre à jour, par exemple, deux fois les décisions par véhicule. C'est-à-dire que vous prenez une décision, enfin, votre boîtier intelligent prend une décision pour votre véhicule, renvoie la décision à un agrégateur du quartier. On le fait deux fois et ensuite tout le monde peut charger selon le profil qu'on a trouvé. Donc ça, du point de vue implémentation pratique, ça coûte pas cher en temps, c'est quasiment invisible pour les consommateurs. Donc voilà, ça c'est important pour nous, c'est plus appliqué. Théoriquement, on ne sait pas dire grand-chose là-dessus. Pourquoi ça va à cette vitesse? C'est compliqué. Voilà. Alors maintenant, on va regarder la tête des profils de consommation dans le cas texan pour regarder, observer ce que ça donne du point de vue du système électrique. Donc là, ça rejoint la notion d'efficacité de l'équilibre de Nash. Donc ici, vous voyez une décomposition de la courbe de consommation de nos 30 foyers texans en deux parties. Donc la partie non flexible en blanc et au-dessus, on vient ajouter la consommation flexible des véhicules électriques. Ça, c'est la façon naturelle qu'on a observée dans les données qu'avaient les véhicules électriques de charger. Et là, donc première chose, on va appliquer une tarification heure pleine, heure creuse. Donc là, vous voyez les pics. Pendant les pics, ça coûte plus cher. Et hors pic, ça coûte moins cher. Et on décale ce qu'on peut de la consommation des véhicules électriques. Alors, je dis ce qu'on peut parce qu'en fait, il y a quand même des contraintes de puissance max. Et typiquement, ce que ça veut dire ici, qu'il reste encore de la consommation du véhicule électrique au pic, c'est que soit il y a des véhicules électriques qui sont là que en grande partie pendant le pic. Donc, on ne peut pas décaler toute leur consommation en dehors du pic. Soit il y a des contraintes de puissance max. On a déjà saturé ce qu'on pouvait consommer pour le véhicule électrique ici. Donc, on n'a pas complètement vidé les périodes de pic avec les véhicules électriques, en déplacement de la consommation des véhicules électriques, mais très largement, déjà avec une tarification heure pleine, heure creuse, on peut arriver à déformer la courbe de consommation du quartier. Donc, maintenant, on regarde ce qui se passe donc avec la dynamique de meilleure réponse qui arrive à un équilibre de Nash. Alors, juste au passage, pour vous dire que la fonction FI, donc je vous rappelle, FI, c'est la fonction individuelle dans les fonctions de coût des joueurs. Donc, c'est ce qui traduit l'effort de consommation pour les joueurs. Et ben là, on arrive à un équilibre de Nash, et quand on trace les profils de consommation, ça donne ça. Donc ici, vous avez en haut le mécanisme par heure et en bas, vous avez le mécanisme par jour. Donc ce que vous observez, en haut, c'est hautement désirable, encore une fois, du point de vue du système électrique, c'est-à-dire qu'on arrive à ce qu'on appelle une courbe water filling. Donc, water filling, ça veut dire, c'est comme si l'eau coulait sur la courbe non flexible. Elle irait se placer dans les creux. Bah, c'est ce qu'on a obtenu en appliquant la dynamique de meilleure réponse avec le mécanisme tarifaire par heure. Et en bas, vous avez le mécanisme avec les proportions par jour, EI sur somme des EJ. Donc vous voyez, du point de vue du système, ça c'est mieux. Voilà, ça donne aussi un résultat qui converge, mais qui, du point de vue système, on ne rentre pas dans les détails là, est un peu moins bon. Voilà. Alors je vais passer rapidement sur la fin pour vous laisser la parole si vous avez des questions. Je vais juste vous définir quand même une notion qui est assez classique maintenant dans certaines classes de jeux, qui s'appelle le prix de l'anarchie. Donc là, si vous avez suivi le fil de l'histoire, on a un algorithme qui permet de trouver un équilibre de Nash. La question, c'est à quel point il est efficace. Et pour quantifier l'efficacité des équilibres, il y a une notion qui a été proposée qui s'appelle le prix de l'anarchie, price of anarchy en anglais. Et l'idée, c'est que vous prenez le coût le plus important, le coût total, donc il faut le définir, on pourra le discuter après, mais le coût total à un équilibre, le plus grand que vous pouvez trouver, donc le pire équilibre au sens de ce coût, et vous divisez par le coût minimum, le coût total minimum. Donc quelque part, ça vous donne à quel point le mo moins bon équilibre est mauvais par rapport à ce qu'aurait pu obtenir un planificateur social qui dicterait les décisions. Donc en bas, vous pourriez l'obtenir si un opérateur du réseau prenait la main sur tous les véhicules électriques du quartier et disait, bah oui, collectivement, au sens du coût total, il faudrait suivre ces décisions. Vous ne pouvez pas faire mieux. S'il avait accès aux informations nécessaires pour le faire, c'est optimal. Au sens mathématique, on sait qu'on ne pourra pas dépasser ça à n'importe quel équilibre. Mais en haut, vous avez ce que vous trouvez avec une méthode où les décisions restent individuelles, où vous trouvez un équilibre et vous espérez, et on va voir que c'est souvent le cas, que cet équilibre soit pas trop mauvais comparé à la situation alternative. Voilà. Bon, sachant que derrière la situation alternative, il y a un problème qui peut être difficile à résoudre, même le problème d'optimisation. Typiquement, si vous dites que vous avez un ensemble discret de 10 décisions pour vos véhicules électriques, quand vous avez 30 véhicules, vous pouvez faire du 10 puissance 30 au niveau de la complexité si vous faites des méthodes très bêtes de recherche exhaustive, quoi. Donc on n'est pas forcément capable de résoudre ces problèmes. Donc voilà, c'est une borne mathématique, mais dans certains cas, d'un point de vue appliqué, pratique, on ne sait pas quoi en faire, quoi, de la méthode qui donne le dénominateur. Alors, le coût total, il y a deux options principales que nous on considère, c'est vous faites la somme des coûts individuels. Donc ça, c'est un peu la vision sociale. Vous avez vos joueurs, vos consommateurs, vous sommez les coûts, et c'est votre coût total qui vous intéresse, qui quantifie à quel point votre mécanisme il est efficace. Et vous avez une autre alternative qui est plutôt la vision système. Vous prenez que le terme qui concerne le système. Donc vous oubliez la partie FI, les efforts individuels de vos consommateurs. Vous, en bout de chaîne, ce qui vous intéresse, c'est à quel point votre mécanisme il est performant pour le système électrique. Donc c'est deux visions un peu différentes que nous, on les discute d'un point de vue scientifique, recherche. Après, derrière, il y a quand même des enjeux pour faire passer le système, qu'il soit validé par des. Vous connaissez peut-être la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. C'est une structure qui tamponne ou pas les innovations dans le monde de l'électricité. Si elle décide que mettre ça dans les mécanismes de coordination, c'est pas équitable du point de vue des consommateurs, on ne veut pas aller vers un système comme ça, ben, on serait peut-être obligé par cette instance d'aller vers l'alternative. Voilà. Donc nous, on quantifie des deux côtés. Après, ce n'est pas nous qui tranchons clairement ces questions. On peut pousser dans un sens ou un autre. Et alors, juste mathématiquement, il y a quelque chose de fondamental, c'est que ce prix de l'anarchie, il est plus grand que 1 déjà, parce qu'en fait, nécessairement, le coût à un équilibre, il est plus grand que le plus petit coût qu'on est capable de trouver pour le coût total. Donc c'est plus grand que 1, et il peut être très grand. Vous pouvez avoir des équilibres qui sont très mauvais au sens de cette métrique. Et donc l'enjeu qu'on a, nous, en tant que chercheurs, c'est de trouver, numériquement ou parfois théoriquement, quand on a de la chance, une borne la plus petite possible qui dit... Mon système, je perds au pire quelques pourcents par rapport à la situation où le planificateur social dicterait les décisions à tous les véhicules, tous les joueurs du quartier. Voilà. Et donc, pour vous dire ce qu'a fait la recherche dans ce domaine, bah dans le cas du modèle par jour, on trouve une zéro. Donc, c'est-à-dire que l'équilibre unique du jeu avec la tarification par jour est aussi performant qu'un diktat social des décisions dans la communauté. En revanche, on a une borne qui est moins bonne, je passe les détails, mais dans le modèle alternatif où on est avec la tarification heure par heure. Mais alors numériquement, quand même, on trouve, vous voyez, là ça joue à 10-3. En fait, l'écart est très petit. Donc dans la situation réelle avec les véhicules texans, on perd très peu par rapport à l'optimum social. Voilà, donc ça, nous, c'est rassurant du point de vue de l'applicabilité de ces systèmes, parce que d'une part, on laisse la décision chez les gens. Même si c'est des boîtiers intelligents, les infos sortiront pas de chez eux, c'est eux qui prennent les décisions. Ils n'ont pas besoin de les fournir à un opérateur du système. Mais d'autre part, on garantit que ce qu'on va trouver avec ce mécanisme qu'on appelle décentralisé, le fait que les décisions restent individuelles chez les gens, ben on perd pas beaucoup par rapport à ce qu'aurait pu obtenir un opérateur du système. OK, alors je vais rapidement vous montrer juste une figure, peu importe les maths sur ce point-là, disons. Donc, on a vu l'aspect efficacité. J'ai évoqué quand même, notamment pour aller vers la question est-ce que les gens resignent à la fin de l'année, la notion de d'équité du système. Donc là, je vous donne pas la formule, je vous donnerai les slides après, de l'équité, mais on a introduit une notion d'équité du système. Pour le faire avec les mains, on a essayé de mesurer à quel point la façon dont on va rémunérer les différents joueurs avec notre mécanisme est proche d'un impact marginal d'un consommateur sur le système local. Donc on a une notion d'impact marginal qui décrit à quel point moi, consommateur, j'impacte le système local. Et on dit que ça, c'est un peu la référence pour ensuite définir l'équité. Et nous, on se mesure à ça. Donc là, ce que vous voyez, vous avez deux axes. Là, c'est l'inefficacité, donc c'est le prix de l'anarchie moins 1. Donc si vous allez ici, ça veut dire qu'on perd 20% par rapport à la situation socialement optimale. Et là, vous avez l'inéquité. Donc plus vous êtes vers le haut, plus c'est inéquitable. Et ce qu'on a tracé, donc toujours dans le cas du quartier texan avec les 30 véhicules, c'est ce qu'on obtiendrait dans trois situations différentes. Donc DP, c'est pour Daily Proportional. Donc c'est les factures avec la proportion par jour. Là, vous avez une tarification heure pleine, heure creuse. Et là, vous avez la proportion heure par heure. Et vous avez donc un certain nombre de marqueurs dans chacun des scénarios. Et un marqueur, c'est un jour. Donc par exemple, si on prend ce point-là, le plein centre, ça veut dire qu'en appliquant une tarification heure pleine, heure creuse, donc c'est un jour de janvier 2012, il me semble, là, vous avez une perte de 10% d'efficacité par rapport à ce qu'aurait pu faire un opérateur du système électrique, à l'optimum, encore une fois, s'il était capable de le calculer. Et vous avez une perte de 3% en termes d'équité. Donc évidemment, le mieux, quand on design ce genre de système, ce serait d'être ici, quoi. 0, 0, ça veut dire qu'on ne perd rien en termes d'efficacité et on colle à la référence en termes d'équité. Et ce qu'on observe ici, c'est que déjà, vous voyez que ça joue dans un petit périmètre. Même avec la tarification heure pleine, heure creuse, on perd au maximum 20% d'efficacité par rapport à ce qu'aurait fait un opérateur qui prendrait la main sur toutes les décisions. Et mais alors, ce qu'on voit quand même globalement, c'est que avec ce mécanisme de tarification heure pleine, heure creuse, on s'écarte des performances qu'on obtient ici, qui sont très tassées les unes sur les autres, dans les deux mécanismes qui reposent sur la dynamique de meilleure réponse. Donc là, vous voyez, en fait, les carrés, donc c'est par jour, les ronds, c'est par heure. Et donc là, ça donne aussi une justification en plus du mécanisme par heure. Et d'ailleurs, c'est un peu ça qui nous a mené à ce mécanisme. Vous voyez que si on regarde l'axe des abscisses, c'est à peu près la même performance, quoi. On est très proche l'un de l'autre. On perd au maximum, là c'est même pas 1% par rapport à l'optimum social. En revanche, en termes d'équité, vous voyez que les carrés s'étalent beaucoup plus sur l'ordonnée. Donc ça veut dire que le système par jour est moins équitable. Vous allez rémunérer des gens qui en fait n'ont pas fait d'efforts. Alors si on dit que c'est pas grave, ok, on peut préférer le mécanisme par jour. Si en revanche on dit que l'équité est importante pour que les joueurs s'impliquent l'année suivante, on pourrait aller plutôt vers les ronds, donc le mécanisme par heure. Ok, je vais finir donc juste pour vous dire une forme qu'on peut prendre pour quantifier l'effort que représente cette flexibilité chez nos joueurs, chez nos consommateurs individuels. Donc voilà, typiquement ce qu'on prend. C'est ce genre de fonction. Donc vous avez L chapeau IT, c'est ce qu'aimerait consommer le consommateur I à l'instant T, ce qui ne représente pas d'effort pour lui. Donc ça peut être par exemple le véhicule électrique qui rentre à la maison et qui charge tout de suite. Il se branche, il charge à la puissance maximale, ça assure au conducteur le fait de pouvoir repartir le plus tôt possible. Donc ça pourrait être la référence L chapeau dans cette fonction. Voilà. Et donc on mesure, encore une fois en norme 2, encore une fois c'est un choix parmi d'autres, hein, l'écart à cette référence. Voilà. Et donc on intègre ce terme-là et on refait un certain nombre de raisonnements que j'ai décrits dans ce modèle avec deux aspects. Je vais passer les maths, mais elles seront présentes dans les slides. Voilà. Et je vais juste conclure avec cette petite expérience qui rejoint en fait l'effort, parce que voilà, on a quand même parlé des maths qu'il y a derrière, mais au bout du compte, l'objectif, c'est quand même d'impliquer les gens dans ce genre de mécanisme, alors qui repose sur la dynamique de meilleure réponse, théorie des jeux ou d'autres outils, multi-agents, ce qu'on veut. Au bout du compte, il faut savoir aussi, est-ce que les consommateurs qu'on est tous veulent bien s'impliquer? S'il n'y a pas de consommateurs impliqués, pas de jeu, pas de gains, etc. Et ça, on commence à le tester à travers des expérimentations. Et là, je vous ai mis un exemple de Cityopt, donc un grand projet européen, où alors des citoyens consommateurs d'électricité se sont impliqués donc à Helsinki, Vienne et Nice, et ont joué le jeu suivant. Donc vous êtes à la maison et vous recevez le soir quand vous rentrez à la maison un SMS ou je sais plus trop quoi ou un truc sur l'application la tablette. On vous dit ce soir on a besoin de décaler tant de kilowattheures dans votre quartier. On a besoin d'enlever 50 kWh de la pointe 18-20 heures dans le quartier. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Donc il y a des soirs où vous allez dire, OK, moi je déplace ma machine à laver après 20 heures, c'est pas grave, je déplace ce que je peux après 20 heures. Il y a des soirs où vous n'allez pas répondre. Et ensuite, en fonction de votre réponse, bon, là il n'y avait pas de contrôle, hein, c'est vraiment pour sentir l'implication des gens. On a un moyen de mesurer a posteriori s'ils l'ont fait ou pas, mais c'est plus sentir l'implication potentielle des gens. Donc vous prenez votre décision qui représente un effort, vos voisins font pareil, et à la fin on mesure la quantité d'électricité qui a bien été basculée de la pointe à des périodes temporelles où ça coûte moins cher au système. Donc on joue ce genre de jeu avec des clients particuliers et on observe est-ce qu'ils s'impliquent ou pas. Voilà, donc c'est pour vous dire, c'est un volet quand même très important parce que au-delà de la performance mathématique qu'on mesure à travers des études chez nous, il faut vérifier que socialement, ça passe chez les gens. Donc c'est aussi un bloc de la réflexion. C'est pas celui sur lequel je m'implique, mais il y a un département entier à EDF qui est accès client, connaissance client, innovation vers le client. Voilà. Pour anticiper si on va dans le mur ou pas avec les mécanismes qu'on développe plus à base de modèles. Voilà. Et je conclue avec quelques remarques. Ça, je vais passer. Ouais. Bon, ça, je l'ai dit un petit peu. Juste pour vous dire, en fait, il y a pas mal d'opportunités aussi liées à ce sujet. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les liens en filigrane, mais avec des sujets assez à la mode. Donc, vous avez des liens avec ce qu'on appelle Big Data. Pourquoi? Parce que, bah, on l'a dit, il y a les compteurs intelligents qui remontent beaucoup de données et ça permet d'avoir un retour d'information précis en direct pour caler nos modèles, pour être au plus près de ce qui va se passer. Donc, il y a énormément d'enjeux autour de ces questions. Vous avez un certain nombre de choses autour de l'apprentissage aussi. Donc, dont on entend parler. Si vous ne connaissez pas parfaitement votre système, vos fonctions de coût, par exemple, sont des modèles imparfaits, vous pouvez en temps réel et jour après jour apprendre des fonctions de coût qui sont plus proches de la réalité du système. Donc il y a des enjeux autour de ça. Et blockchain, bon, c'est aussi très à la mode. Mais si vous voulez faire des échanges de monnaie, qu'elles soient virtuelles ou pas, entre vos voisins qui participent, il y a des enjeux autour de ces mécanismes. Voilà, désolé, j'ai pris pas mal de temps. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas et merci de votre attention. Ça, c'est la même chose en ce qui concerne la mise à jour à chaque itération. C'est-à-dire que pour tous les joueurs I, on fait ça de manière simultanée. Donc, ce qui n'est pas bien écrit là, qu'il faudrait préciser, c'est est-ce que là-dedans, on connaît la décision qui vient d'être prise par mon voisin à l'itération K, ou est-ce que là, on met K-1. Si tu mets K-1 ici pour tout le monde, c'est comme si tu jouais la version simultanée. Tu le fais sur la base des décisions de l'itération précédente. Si maintenant, moi joueur 2, à l'itération K, je connais la décision du joueur 1 à l'itération K. Et le joueur 3, au moment où il mettra à jour sa décision à l'itération K, il connaît les décisions de 1 et 2 à l'itération K. Donc c'est là où je joue la différence entre simultané et séquentiel. Après, il y a des mixtes un peu entre les deux. Il y a plein de raffinements. Là, c'est vraiment pour vous donner la base de la logique des dynamiques. Il y a vraiment plein de recherches pour notamment des échanges d'informations très locaux entre une partie des joueurs seulement. Et ça suffit à se coordonner dans l'ensemble plus grand des joueurs, quoi. Alors oui, vaste sujet. Très clairement, la réponse est oui, sous des formes hyper diverses. Sachant que le stockage existe déjà beaucoup dans les réseaux d'électricité, notamment en France, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle des STEP, donc ces stations de turbinage-pompage. En gros, c'est l'hydraulique. Vous avez deux lacs. Ça se passe souvent en montagne. Vous avez un lac haut, un lac bas. Quand l'électricité est pas chère, vous pompez pour faire remonter l'eau vers le lac haut. Quand c'est cher ou que le système en a besoin, vous turbinez, vous faites descendre l'eau du lac haut vers le lac bas, et là vous générez de l'électricité. Donc ça, c'est un stockage qui est vraiment à coût très faible, une fois qu'on a l'installation, et on en a pas mal en France. Vous en avez aussi beaucoup en Suisse où ils ont un potentiel hydraulique important. Donc ça, c'est le premier stockage qui existe déjà et qui est très très fortement utilisé. Après, il y a tout ce qui concerne le stockage chimique. Les batteries, il y a énormément de travaux là-dessus. Actuellement, ça reste quand même cher d'investir dans un stockage que pour faire du stockage. Donc je ne connais pas les détails là-dessus, mais clairement, les études qui ressortent, c'est que, à part des cas particuliers comme les îles, où il y a des systèmes insulaires qui sont plus difficiles à gérer parce que l'équilibre se fait à une petite échelle, où là, ça peut être rentable de mettre du stockage, et qui est plutôt du gros stockage. De manière générale, investir dans un stockage chimique, c'est. Alors vous avez aussi des stockages physiques, genre des volants d'inertie. C'est le même principe que les STEP, sauf que vous comprimez votre volant avec un gros gros ressort quand l'électricité coûte pas cher et vous le laissez aller quand ça coûte cher. Là, ça génère de l'électricité. Et après, tout ce qu'on a décrit, ça peut être interprété aussi comme un stockage. C'est un stockage virtuel parce que le fait de consommer au moment où c'est opportun pour le système électrique, c'est déplacé dans le temps de la consommation, c'est du stockage. C'est un stockage avec certaines contraintes qui sont dues aux efforts des consommateurs et à leur façon de consommer, mais c'est aussi un stockage. Mathématiquement, il y a plein de choses qui se passent pareil. Voilà, mais clairement, c'est un sujet où il y a énormément de choses. Il y a des bouquins récents qui sont sortis, notamment EDF a sorti un bouquin sur tout connaître sur le stockage, je sais pas quoi, une petite version vulgarisée des thématiques du moment sur ce sujet. Ouais, alors on pourrait, là on est un peu naïf, on fait de la recherche et disons qu'on regarde la performance des différents équilibres, par exemple, on les compare. Et alors il y a tout un pan de recherche qui s'appelle le design, par exemple, mechanism design, qui vise à chercher comment trouver le bon équilibre qui nous intéresse, vu des designers, les opérateurs du système, quoi. Donc ça, c'est des choses qu'on fait dans certains cas. Ici, c'est pas ce qu'on propose directement. Après, très clairement, ces questions d'information sont pas décrites là, mais sont hyper importantes en pratique. Et notamment, il y a une information liée aux connaissances imparfaites, les prévisions. Le L0. Je ne l'ai pas dit explicitement, mais c'est une prévision. Quand vous prenez vos décisions à 17 h pour la nuit qui vient, vous ne savez pas exactement ce qui va être consommé par le quartier. Et ça, vous avez une prévision. Si cette information-là, vous l'avez de manière très très biaisée, ça impacte énormément ce qui va se passer dans votre mécanisme. Donc là, il y a des façons de faire. Notamment, une façon simple, c'est de relancer l'algorithme de meilleures réponses quand on se rend compte qu'on s'est vraiment planté sur la prévision. Donc on pourrait toutes les heures contrôler, relancer avec ce qui reste à consommer pour la nuit, et obtenir un profil mis à jour parce que la prévision a été mise à jour. Donc il y a un peu deux informations, une information plus stratégique, et oui, on le fait, mais là, on ne l'a pas mis. Et il y a quand même aussi l'aspect information, prévision, imperfection des modèles, quoi. Merci de votre attention, et n'hésitez pas à me contacter si vous cherchez aussi des stages ou des choses comme ça. Il y a quand même pas mal de sujets, c'est un peu nouveau pour nous, la théorie des jeux dans le monde électrique, mais il y a pas mal de propositions en ce moment dans ces thématiques. Il y a aussi des jeux d'enchères, par exemple, où... Vous avez maintenant, il y a des enchères pour proposer la construction de capacités de renouvelables. Donc vous avez des enchères, les acteurs disent moi je mets tant de panneaux solaires à tel prix, les autres font aussi leurs offres, et c'est sous forme d'enchères comme pour acheter un meuble. Et il y a des gens qui proposent des modèles là-dessus, c'est des sujets qui ont une vie chez nous, quoi.